bonjour, il se passe tellement de choses en une semaine. On va bientôt être obligé de faire des émissions quotidiennes au lieu d'hebdomadaires pour avoir la chance d'aborder tous les sujets dont on a envie de parler. Allô, mon Alex Accro.
Salut Véro, ça va?
Ça va super bien. On enregistre encore à distance, ouais. Mais on se voit comme ça, on s'oubliera pas.
Mais non, t'oublieras pas ma grosse face. Non, tout à fait. Mais avant de commencer l'émission, si tu le permets, j'ai un petit message à faire passer. Comme tu sais, puis j'apprends au monde, demain, c'est la fête à ma copine. Elle va
Sophie.
Oui. Fait qu'elle va avoir 25 ans, le 14 janvier. Puis je voudrais y dédier notre émission, si tu le veux bien. Si tu le veux pas, ben je vais pas y dédier, mais j'ai un petit quelque chose pour elle, si tu
Avec
permets.
Avec plaisir, vas-y. Ben, bien sûr.
On écoute ça. Eh oui, on lui souhaite un joyeux anniversaire de la part des accros du micro. Fait que Sophie, c'est pour toi. Je te souhaite une bonne fête d'avance et je te dis je t'aime parce que je suis un grand romantique.
Oh, que c'est magnifique. C'est difficile de souhaiter bonne fête après ça, mais bonne fête, effectivement, Sophie. J'espère que tu vas passer une superbe journée, un beau week-end de fête au complet. Là, je vais prendre le temps aussi de remercier ceux qui nous écoutent et nos abonnés YouTube. Merci d'être fidèles. Et là, vous savez que le Bye Bye 2021 a été l'émission la plus regardée de tous les temps au Québec. Il y a eu 4 862 000 spectateurs. Oh. C'est incroyable. Ça a battu tous les records. Et là, moi, je dis, Alex, visons le sommet. Atteignons cette cime. On n'est pas pressé. On s'installe, mais suivez-nous.
Ah oui, non, mais grosse semaine aux accros du micro. On va pas parler de deux nouvelles, mais bien de quatre. Je vais vous raconter ma semaine parce que oui... J'ai malheureusement eu le coronavirus cette semaine. On va faire un débat sur les téléréalités, pour ou contre les téléréalités, et est-ce que être connu et reconnu, c'est la même chose? Un gros débat, on n'est pas beaucoup en accord, toi et moi, Véro, mais on va régler ça carte sur table. Je vais vous faire la chronique NFL parce que oui, dimanche dernier, il y a eu beaucoup d'actions, et il y aura beaucoup d'actions à partir de samedi. Véro, cette semaine, petite chronique sur le Blue Monday. Bien hâte de savoir c'est quoi. Et nous allons terminer avec notre nouvelle insolite. Bienvenue aux accros du micro.
Pour le segment nouvelles sur notre radar, on a décidé cette semaine de faire un survol de quatre nouvelles qui ont particulièrement été frappante. Alors, la première, c'est difficile de passer à côté, mais l'histoire de ces influenceurs qui sont allés au Mexique et qui ont fait un gros party. Dans l'avion. Je te laisse débuter, mon cher.
OK, bien, comme tu as dit, les quatre nouvelles vont aller un peu crescendo niveau de la semaine, littéralement. Et commençons par les influenceurs, aussi appelés les mal-aimés du Québec, hein, on ne se le cachera pas. Et pourquoi je dis ça? C'est simple. Oui, désolé, mais c'est épais ce qu'ils ont fait. Le mot est peut-être mal choisi, mais moi, je le pense. C'est épais faire ça en temps de pandémie mondiale, mais il faut dire que les médias en ont mis une grosse couche. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est irrespectueux qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour des pseudo-influenceurs. Moi, pour vrai, ils me nommaient les noms, là. J'en connais aucun. Je ne sais pas pantoute c'est qui ceux-là. On a appris à découvrir des personnes un peu, ma foi, louches. Je pourrais-tu dire louches? Oui, littéralement. Aller au Mexique et faire des faux tests COVID, louer un avion Sunwing. La compagnie a l'air de vrais jambons en ce moment. Puis bien fait pour eux d'avoir été pogné au Mexique. Moi, désolé, mais c'est ma façon de voir les choses. Toi, ces influenceurs-là, est-ce que c'est venu te chercher ou pas la nouvelle?
Absolument, mais je suis vraiment en accord avec ce que t'as dit. Même moi, je sais pas c'était qui ces gens-là. Est-ce qu'on avait vraiment le nom de tous ces têtes de pioche-là? Je sais pas. Quelques noms sont sortis. La bonne nouvelle, ben je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont sûrement écarter ces abrutis de leurs contacts pour promouvoir leur marque et prendre le temps avant de s'associer avec eux autres. Maintenant, ils ont une crédibilité zéro, c'est terminé. Je pense que ça, c'est la bonne chose. Mais moi, j'aimerais en fait profiter de cette nouvelle pour demander à ce qu'on cesse d'utiliser ce mot « influenceur ». Moi, ça me plaît pas.
Mais il influence qui en faisant ça?
Mais c'est ça. Et moi, j'ai vraiment cherché la définition de ça veut dire quoi être influenceur. Puis là, je suis tombée sur ceci. Un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition, a une influence sur les gens qui la suivent et sur leurs décisions d'achat. Avant, là, on appelait ça un catalogue. Fait que moi, je trouve que un mot qu'on devrait arrêter d'utiliser. Mais ce qu'on apprenait, je pense que c'est intéressant quand même de le mentionner, on apprenait quand même hier qu'il y a 12 passagers du vol qui sont sous enquête de l'Agence de la santé publique du Canada. Il y a 3 dossiers qui sont maintenant soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Ils sont soupçonnés d'avoir enfreint la loi sur la mise en quarantaine, mais là, soupçonnés, sérieusement.
Mais ils se sont filmés, hein? Désolé, mais
on est passé le soupçon rendu là.
Ben oui. Non, mais tu pensais quoi, là? T'sais, le pire, c'est... Il aurait fait le party privé, il n'y aurait pas eu de problème en tant que tel, mais ils se sont filmés. Écoute, c'est là que le bas blesse. C'est là que, une fois que tu mets quelque chose sur Internet, c'est là pour rester. Désolé, maintenant, en 2022, c'est comme ça. Et ça nous amène notre autre nouvelle. Le docteur Horacio Arruda a donné sa démission en début de semaine. Je vais commencer, si tu le veux bien, avec une critique personnelle. Il était temps d'avoir du sang neuf. On le sait maintenant, au Québec, il y a beaucoup de restrictions dites très sévères en ce moment pour le temps des fêtes, la nouvelle année et jusqu'au printemps, fort possiblement. On ne se fera pas de fausses peurs là, jusqu'au mois de mars. Moi, je pense qu'on est pogné là-dedans. Et je crois que c'était le temps de changer de point de vue. Le docteur Arruda, moi, je le connaissais pas avant la pandémie. Je sais pas si on en a... Il paraît que ça fait 12 ans qu'il était à la tête de la santé publique.
Ben, ouais, depuis 2012, ouais.
Bravo pour lui. Je suis fier de lui. Mais maintenant, passe le flambeau, puis on va voir si l'autre va être aussi optimiste ou pessimiste avec des statistiques, puisqu'il travaillait justement pour l'INES. Et il était le directeur de l'INES, donc lui, c'est niveau statistique, fait que les courbes. Il voit ça, puis j'imagine qu'il va donner des bonnes nouvelles. C'est pas mal mon ressenti.
OK. Ben moi, je m'attends pas nécessairement à ça. Puis je suis un peu mitigée, là, dans le sens que moi, je pense que c'est plus un sacrifice, une autre personne qu'on sacrifie. Quand le gouvernement perd le contrôle, on dirait qu'on brasse les cartes, on vire quelqu'un, puis on espère que ça va changer de sujet. Je pense que c'est une décision qui a été prise pour tenter de rehausser un peu le degré de confiance de la population envers le gouvernement puis les autorités de santé publique. C'est ça, je le vois vraiment moi comme un sacrifice, quelqu'un qu'on a mis à la trappe là, pour dévier un peu le sujet. Faut quand même, je pense, pas oublier tout le dévouement de cet homme qui a été pris dans une crise qui avait jamais été vue. Là, le danger, ça va être de le reprocher après coup toutes les décisions prises. Puis il l'a écrit dans sa lettre de démission. Puis là, je le cite, il a dit « Il importe de considérer chacune des recommandations dans le contexte des connaissances du moment et de l'époque. » Parce qu'effectivement, oui, peut-être certaines décisions ont pu être remises en question avec le temps, mais il est pas tout seul, somme toute, quand même. Il y a plusieurs personnes à la table. Puis je pense qu'on a beaucoup décrié dans les médias le rôle un peu nébuleux là en étant aussi sous-ministre adjoint. Il est très proche du politique. C'est tout ça que je pense qu'il va avoir une réflexion à avoir sur le rôle de directeur de santé publique.
C'est juste drôle le timing. Là, t'sais, il quitte en plein milieu de la... Quoi, on est rendu 5e vague, si je me trompe pas. Puis le pic n'est pas encore atteint selon ce qu'on entend dans les médias. Est-ce que c'est atteint? Est-ce qu'il s'est plafonné? On le sait pas, mais pour l'instant, on lui souhaite bonne chance dans le reste de sa carrière. Mais du 109, attendons, donnons la chance aux coureurs. Donnons la chance à son successeur par intérim, il faut le dire, par intérim. Et là, je vais te parler maintenant par rapport à l'histoire Novak Djokovic.
Oui, on passe à la troisième nouvelle.
On passe à la troisième nouvelle, c'est Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de l'ATP, qui s'est présenté en Australie malgré qu'il n'est pas vacciné. Et pour faire une histoire courte, l'Australie a dit, et je cite... toutes les personnes non vaccinées ne rentreront pas au pays, sauf pour des exceptions médicales. Novak Djokovic a rempli tous les papiers pour avoir cette fameuse exemption médicale, mais arrivé aux frontières de l'Australie, il a passé 4 jours en prison avec des gros guillemets. Là. Son visa avait été révoqué, mais finalement, un juge a dit « Non, vous avez été trop sévère, il peut rentrer ». Là, il y a 2 options qui s'offrent à lui. Est-ce que le gouvernement va mettre son droit de veto et dire « Novak, prends le prochain avion et va-t'en » ou ils vont dire « Ok, c'était un juge indépendant qui a dit « C'est beau, reste au pays, mais est-ce qu'il participe à l'Omnium d'Australie qui est le premier grand chelem de la saison ATP qui devra commencer le 17? » Pour ma part, je crois que ça devient trop politique. Le sport a été mis de côté, littéralement. Ça devient très politique, car j'ai appris que l'Australie sera en élection en 2022. Je ne sais pas si tu le savais, mais la population était pour les mesures restrictives du gouvernement. Et là, si tu laisses Novak Djokovic dire « Ok, excuse-moi, il n'y a pas de problème, viens dans notre pays, même si tu es un anti-vax », c'est quoi l'image du gouvernement maintenant?
Ouais, ben là... On dit anti-vax, on le sait pas, on le sait qu'il est pas vacciné.
C'est un anti-vaccin. C'est un anti-vaccin.
Il l'a déclaré.
Il a déjà déclaré qu'il n'allait pas se faire vacciner. Désolé de couper, mais il a déjà déclaré qu'il n'allait pas.
Il y a un nouveau surnom que j'ai vu d'ailleurs. Ça a l'air qu'on l'appelle maintenant Novax.
Ah, ça, je ne l'ai pas vu. OK.
C'est son nouveau surnom. Ben, moi, je pense dans tout ça, ce qui est super important, c'est l'image que ça envoie aussi en étant une personnalité publique de ce calibre-là et de cette flamboyance aussi, les retombées qu'il y a, l'impact qu'il peut avoir chez les gens. C'est comme si certaines classes de personnes pouvaient passer outre ces mesures-là, parce que c'est vrai, l'Australie, depuis le début de la pandémie, ça a été un des pays qui a mis des mesures très, très strictes rapport aux frontières, entre autres. Alors là, on passe par-dessus ça. Est-ce que c'est parce que c'est une vedette du sport? On veut pas s'attirer les foudres de peut-être certains supporters ou au contraire. Bon, enfin, bref, c'est pas terminé parce que, comme tu dis, ça peut être évoqué d'ici. Je pense que le gouvernement pourrait décider de passer outre puis de lui encore révoquer son visa.
Bien, théoriquement, oui. Ça serait jeudi ou vendredi. Ce serait vraiment les dates limites. Faut pas oublier qu'il y a 16 heures de décalage avec l'Australie. Donc, pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons, il n'y a pas de déclaration officielle. Mais j'ai pu lire que la population était derrière le gouvernement. Donc, la population veut que le gouvernement dise « Non, Novak, retourne dans... » un avion et votant, et si, je dis bien si, le gouvernement met ses couilles sur la table, désolé de l'image, là, est-ce que tu savais que c'est 3 ans d'exclu, qui sera exclu de l'Australie?
Ouais.
C'est beaucoup, là, ça veut dire 3 grands chelems, puis il l'a gagné 9 fois ce tournoi-là. Oui, c'est. Mais là, c'est plus que le sport, c'est une pandémie mondiale. Il faut que tu comprennes que tu as fait le choix, désolé, man, mais bye. Moi, je pense que c'est bye.
Bon, on va sûrement avoir la chance d'en reparler la semaine prochaine parce que, justement, le tournoi est ce week-end, comme tu le... c'est ça, ce week-end.
Oui.
Donc, on aura la suite de cette histoire. Ça nous amène à la 4e nouvelle pour terminer ce segment de Radar sur la nouvelle. On a appris la fin de la série District 31. Donc, le 21 avril prochain, ce sera la fin avec le 720e épisode. On dit qu'on doit s'attendre à toute une... finale. Toi, Alex, je pense que tu n'as pas écouté cette série-là, si je ne m'abuse.
Non, moi, je suis 6 ans en retard.
Bon, ben c'est ça. Mais hey, ça a quand même attiré 1,6 million de téléspectateurs, quand même pour une quotidienne.
Oui, j'ai vu les chiffres. J'ai vu les chiffres, puis c'est ça, c'est surtout c'est l'aspect quotidien. Ouais, c'est l'aspect quotidien, c'est fou.
Puis, moi, je me dis, si à un moment donné, tu as envie de rattraper tout ça, parce que c'est disponible sur tout.tv, un petit calcul rapide, là, si tu veux tout écouter les 6 ans, ça va te prendre 15 jours sans arrêt. Ça va être parfait, tu vas être à jour après ça. Un petit break de 2 semaines. Mon cher Alex, tu fais maintenant partie des statistiques parce que, tu as attrapé la COVID-19 cette semaine.
2 semaines, malgré tout, oui. Après l'émission, dire, quand je faisais le montage de notre émission, et j'ai... Est-ce que j'ai créé mon propre malheur? Moi, je ne crois pas, là, mais certains diront, tu l'as cherché un petit peu, t'es allé aux États-Unis. Je vous entends, les critiques, je vous entends parfaitement. Mais faut dire une chose, et j'aimerais mettre les points sur les i, si tu le permets, Véro. Je veux dire que je crois l'avoir attrapé ici au Québec. Et là, tu te demandes, mais Alex, comment ça en si peu de temps? Je suis sûr que tu te poses la question.
Absolument, tu lis dans mes pensées.
Eh bien, à mon retour de Boston, le lundi, j'ai dû passer un test PCR qui est plus efficace qu'un fameux test rapide, là. Et le test PCR détecte à l'instant s'il y a des molécules du virus en toi par tes narines. Et une heure plus tard, tu sais oui ou non si tu es positif ou négatif. Tout le monde sait comment c'est scientifique, c'est prouvé. Okay? Jusqu'à là, il n'y a pas de débat à avoir. J'ai fait le test le lundi 3 à 13h10. Ensuite de cela, ben, je suis retourné chez moi. J'ai arrêté par le New Hampshire dans un petit truck stop, manger une bonne pizza avant de revenir au Canada. Mardi et mercredi, qui seraient selon moi les deux jours de contamination.
Auquel tu aurais été exposé.
Auquel j'aurais été exposé. Autre, aller porter et chercher ma copine à son travail, je suis allé faire 3 magasins. Okay? Jusqu'à là, rien d'anormal. Mets le masque, mets le Purel et tout ça. J'ai été prudent. Je ne minimise aucunement l'impact du virus. Mais là, dans la nuit de jeudi à vendredi, Véro et les auditeurs, je peux vous dire que je ne l'ai pas trouvé drôle. Je suis devenu un
bleu. Tu t'es mis à avoir des symptômes.
Des symptômes, là. Puis les symptômes, je peux te dire que ça fessait, là, bien comme faux. Je suis devenu un bloc de glace tellement que je ne sentais plus mes pieds et mes jambes. Et ensuite de ça, je suis devenu une bouilloire humaine.
Tout ça se déroule, là. Tout d'un coup, tu ressens ça dans ton corps, tu passes de très froid à très chaud.
À très chaud, température, j'ai pris ma température et j'ai commencé à tousser. Donc je me suis dit, OK, je vais laisser la nuit passer et le matin du vendredi, je vais faire un test rapide et mon test rapide est sorti positif. Bon. Là, je vais vous dire les choses comme elles le sont. Moi, j'ai réagi après le premier vaccin. J'ai fait une montée de température en dedans des 5 minutes après m'avoir fait donner l'injection et j'ai failli perdre connaissance. Moi, je n'aime pas les vaccins et j'avais dit à l'infirmière tout bonnement, je lui ai dit, tu sais, ta deuxième dose, tu pourrais aller te la mettre dans les fesses. Littéralement, j'étais pas content. Je me suis dit, moi, une dose, c'en est assez. Eh bien, finalement, je suis content d'avoir eu la deuxième dose, Véro. Parce que c'est peut-être la deuxième dose qui a fait que je l'ai eu moins fort.
Probablement.
Probablement, et j'ai fait un isolement de 5 jours, et c'est aussi en même temps, on est à distance, donc je t'ai pas vu. Fait que t'es correct, Véro, je te dis tout de suite, t'es correct.
Ça tombe bien. Mais là, toi, est-ce que tu as fait une déclaration? Qu'est-ce qui s'est en suivi avec la santé publique? As-tu eu des communications?
Oui, tout à fait. Je ne fais pas partie des chiffres du jeudi pour le vendredi, puisque j'ai fait un test rapide. La santé publique ne comptabilise pas les tests rapides, puis je suis resté chez nous. Mais par exemple, j'ai communiqué avec la santé publique et laisse-moi te lire le courriel qu'ils m'ont envoyé. Une partie du courriel, c'est « Durée de l'isolement ». Tu vas voir, c'est très politique. Si vous êtes adéquatement vacciné, vous devez vous isoler pendant 5 jours à partir du début de la date de vos symptômes ou à partir de la date de votre prélèvement si vous n'avez pas de symptômes. Après 5 jours, si vos symptômes sont améliorés ou que vous n'avez plus de symptômes et que vous n'avez pas fait de fièvre depuis au moins 24 heures, vous pouvez cesser l'isolement. Donc, on le sait, le gouvernement avait descendu la quarantaine de 14 à 10 jours et de 10 jours à 5 jours. Ouais. Mais c'est pas tout, parce qu'après mon isolement, il dit « Toutefois, pour les 5 jours supplémentaires, vous devriez porter un masque lors de toute interaction sociale, c'est-à-dire quand tu te vois des amis ou famille, mais en même temps au Québec en ce moment, on n'a pas le droit, et respecter le 2 mètres si possible. » Jusqu'à là, c'est simple. Mais moi, c'est la phrase en dessous. parce que la phrase en dessous, ça dit « Si vous n'êtes pas adéquatement vacciné ou ne respectez pas les conditions de votre isolement pendant 10 jours, puisque nous ne sommes pas vaccinés, il demande un isolement de 21 jours. » Mais si je suis un travailleur de la santé, parce que c'est un message bien évidemment automatisé, mais si je suis un travailleur de la santé, il faudrait que je communique avec le milieu de travail pour les consignes et pour mon retour au travail. En bon français, après 5 jours, sors, mets un masque. Mais c'était déjà possible. Limite tes contacts. 5 jours après, c'est cool. Fait que moi, je ne minimise pas l'impact. Je veux sensibiliser les auditeurs et toi-même, à savoir l'importance de la vaccination m'a peut-être sauvé la vie.
Dimanche dernier, sur Nouveau, la saison 2 de Big Brother Célébrité a commencé. D'abord, beaucoup de réactions devant les candidats, candidates de cette année, principalement parce que plusieurs ne sont pas considérés comme connus, donc faisant partie de ce qu'on pourrait nommer célébrité. En faisant une petite recension du sujet dans les médias, on a même écrit que les participants eux-mêmes ne semblaient pas se connaître. Et pour l'avoir écouté dimanche, effectivement, on assistait aux scènes où quand les candidats, candidates entraient dans la maison, qui est maintenant cette année un studio, ils se présentaient entre eux parce qu'ils se connaissaient pas. Donc, le titre de Big Brother Célébrité est à questionner. Il était également l'an dernier, mais ça reste somme toute un détail. On sait que c'est accrocheur comme titre. On comprend le choix parce que Big Brother, personnalités publiques qui sont plus ou moins connues dans certains cas, mais le deviendront assurément après. Ça aurait été un titre probablement plus approprié, mais pour des raisons assez évidentes, c'est-à-dire mauvais, beaucoup trop long, ça n'a pas été retenu. Donc, l'émission... faut dire que l'émission est populaire. Hein. Il y a quand même plus... En tout cas, l'année dernière, il y avait plus de 700 000 personnes qui la regardaient quotidiennement, puis le dimanche. Donc, phénomène important. Et là, ce soir, Alex, on a choisi Big Brother pour notre controverse de la semaine, puisque c'est d'actualité. Mais là, on élargit un petit peu ça. Ça devient presque un débat parce que on va se poser la question pour ou contre les téléréalités. Et là, je te laisse commencer. Je te vois trépigner derrière le micro.
Bon, donc ta question est fort simple. C'est pour ou contre les téléréalités? C'est le préambule et Big Brother. Moi, je me cacherai pas. J'ai écouté la saison 1 de Big Brother l'an dernier. J'ai sur tous les participants... Moi, j'en connaissais quelques-uns, vraiment minimes, mais je me suis dit la tranche d'âge qu'ils avaient choisie était vraiment élevée comparée au public cible qu'ils visaient, c'est-à-dire les 20-30 ans, mais tu mets des 30, 40, voire 50 ans, c'était un peu, selon moi, c'était un non-sens.
Il y avait beaucoup de monde dans la vingtaine, là. C'était très réparti.
Mais ouais, c'était des vingtaines qui avaient...
Des influenceurs que t'aimes beaucoup.
Tout à fait. Mais là, à ta question pour ou contre les téléréalités, moi, je vais sûrement te surprendre. Je suis contre le style de téléréalité. Je ne suis pas contre les téléréalités. Le style québécois des téléréalités ou le style qu'on s'approprie ou qu'on achète une émission d'ailleurs, moi, désolé, mais ça n'a pas sa place à la télévision. Puis, je veux pas être méchant, mais pour moi, la télévision commence à être de plus en plus désuet. Le monde va beaucoup vers le streaming, vers les émissions de type Netflix sur les plateformes Amazon Prime. Donc, je comprends pas encore, mais tu l'as bien énoncé au début. Le titre vraiment très long que tu as nommé aurait dû être le titre de Big Brother. Parce que c'est des personnes que tu dis, c'est qui? C'est quoi une célébrité? C'est quoi être une célébrité au Québec? Et pourquoi les célébrités québécoises ne veulent justement pas aller là? Il y a ça aussi comme question. Parce qu'on s'entend qu'il y avait sûrement des plans A, là. T'sais, c'est pas tout leur premier choix, là. Loin de
moi,
là.
Moi, je suis curieuse de savoir qui a été approché et qui a refusé.
C'est sûr que ça serait le fun à savoir. Si tu dis un grand de ce monde, écoute... Un grand de ce monde, là. Exemple Claude Legault, okay, qu'on voit beaucoup dans les annonces pour le sirop d'érable. Okay? C'est une célébrité québécoise. Est-ce qu'ils l'ont approché? Salut Claude, veux-tu venir faire Big Brother? Je ne penserais pas. T'sais. Ça, c'est de la célébrité. Va chercher Ticoun d'Occupation Double qui a été éliminé la semaine 2 parce qu'il parlait « Ouais, genre, hey, le gros, c'était le fun, hein? » Non, non, écoute, ton émission a plus de classe. Et Occupation Double, je vais te faire une confidence, OK? Je vais faire une confidence. J'ai déjà écouté Occupation Double. J'ai arrêté l'année de Danny et Christina, pour ceux qui le savent. OK, c'était la première fois, couvertement, ouais, on a su que deux participants avaient couché ensemble. Et ça l'avait fait polémique.
Mon Dieu, c'était une polémique, mon Dieu.
Oui, ouais, c'était une polémique. Puis là, c'est là où est-ce que les bitcheries, désolé le mot, il est fort, mais les bitcheries ont un peu commencé. Parce que dans le temps où est-ce que c'était à Terrebonne, puis le but de l'émission, c'était vraiment trouver l'amour, faire des voyages, puis que c'était un langage semi-soutenu. Maison, ouais, ouais. Ben oui, un langage simili-soutenu, puis pas « Hey man, tu vas-tu au gym? » Non, je m'en tape littéralement de ce genre d'émission-là. Puis non, je suis vraiment contre. Mais une télé-réalité, certains disent que Star Academy pourrait être une télé-réalité. C'est...
C'en est une.
C'en est une, et ça, c'est une bonne télé-réalité. C'est pas...
Ouais, ça, on est juste une classe à part à
c'est
ce
la
moment-là.
Classe à part.
Moi, ouais. Oui, mais ça, c'est les gens qui participent à ce type d'émission-là, ça, je mets vraiment dans une autre catégorie. Oui. Quand il y a un concept artistique derrière la télé-réalité, c'est autre chose.
Pour faire découvrir un talent aussi.
Oui, puis eux vont devenir des personnalités, peuvent devenir des, ce qu'on appelle des vedettes ou des célébrités, là,
oui,
parce qu'ils vont faire des albums, ils vont faire des spectacles, ils vont faire de la tournée, ils vont...
Ben, c'est
vont
le but visé. Hein.
Des... Non, ouais. Ton point de vue est clair, j'aime ça, mais j'ai une petite chose, là, je me demande à quel point, parce que tu as parlé avant de donner mon point de vue, je te dis les premières saisons d'Occupation Double semblent avoir une différence avec celle d'aujourd'hui. Je me demande à quel point ça ne reflète pas aussi un changement dans notre société. Tu sais, si le type de personne qui participe a changé dans les 15 dernières années, ben c'est, est-ce que ça représente davantage le type de jeunes qu'on a aujourd'hui? Tu sais, la question se pose parce que ça reste que c'est un reflet de société et de nous-mêmes, en quelque part, les télé-réalités. Alors, moi, par rapport à ce concept de reflet-là, je suis pas contre. Donc, ça veut dire que t'es pour, ça, Véronique.
Ben oui, oui.
Mais ça dépend encore, là, c'est ça, du concept. Parce que moi, j'aime ça voir des gens plonger dans un contexte et assister à toutes les interactions, ramifications, combinaisons, organisations, puis toutes les autres ions là, que tu peux trouver entre eux. Comme je dis, c'est un reflet, c'est une espèce de miroir grossissant. Puis ce que je remarque, c'est qu'on juge vite, hein? On écoute les premières émissions, puis on juge tout de suite, on se fait une opinion sur les mondes, puis on les taille, puis on les met dans des cases, puis on dirait qu'on a tout compris, c'est quoi leur personnalité. Mm-hmm. Mais je trouve qu'on se fait prendre rapidement notre propre jugement, parce que souvent, nos impressions vont changer quand on laisse le temps aux gens de se faire connaître. Là, on se fait avoir souvent dans nos jugements premiers. Fait que moi, je trouve qu'il y a un bel apprentissage quand même à avoir là de l'idée du jugement rapide.
Sauf
on le fait beaucoup.
Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est mieux être connu ou reconnu? Parce qu'il y a une grosse différence entre être reconnu, genre « Hey, je t'ai vu dans telle émission, donc tu as été reconnu. » Ou une célébrité qui est installée depuis longtemps, tu es connu, tu es une personnalité publique. Parce que là, maintenant, tu fais une télé-réalité, tu te dis « vedette ». Non, non. C'est pas parce que t'es allé te montrer tes lolo à TV que soudainement, t'auras plus d'abonnés sur Instagram. Peut-être certains garçons un peu bizarres, mais sinon, là, on s'entend, tu es reconnu. Mais, tu n'es pas connu.
Non. Ben moi, c'est le contraire. C'est drôle. Moi, je pense que c'est le mot, j'utiliserais le contraire. T'es connu parce qu'on a vu ta face, parce qu'il reste qu'on n'échappera jamais à ça.
Non.
La télé a eu toujours cet effet-là, va l'avoir encore. Je vois ta face dedans, je te reconnais. T'es connu. Fait que moi, c'est là où je me dis, quand t'es connu, c'est juste parce qu'on t'a vu en quelque part. Quand t'es reconnu, c'est qu'on reconnaît ton travail, ton talent. C'est un peu quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait, fais la différence entre réussir ta vie versus réussir dans la vie. C'est ta vie que tu veux refaire. C'est pour ça que j'ai l'impression que des personnalités comme tu nommais Claude Legault, là, mais tu sais, toute autre personnalité, des auteurs, des artisans, des chanteurs, des comédiens, des comédiennes, des danseurs, bon, moi, je pense que ces gens-là sont reconnus dans ce sens où ils ont établi leur crédibilité, ils ont fait leur preuve au niveau de leur travail. Connu, c'est juste genre, je connais ta face. Mais bon, bref, là, on pourra faire un débat sémantique
longtemps. Mais moi, j'aimerais t'amener, si tu le permets bien, sur un exemple bien particulier d'une télé-réalité. Je sais pas si tu as écouté ça. Moi, non. Mais j'ai vu quelques bandes-annonces. C'est L'île de l'amour. OK?
Non, j'ai jamais écouté.
C'est un concept, je pense que c'est européen, L'île de l'amour. Tu sais, c'est sorti en 2021, fait que je vais parler en 2021. Il y a eu beaucoup de polémiques autour des femmes, le hashtag MeToo de ce monde, OK? Ce qui est très bien. On veut valoriser la femme, on veut reconnaître la femme, mais par exemple, à 7h ou 8h, je ne sais même pas à quelle heure ça jouait, tu avais je ne sais pas combien de nounuches puis de gars simili-shapés ou dopés qui étaient en petit bikini, en petit maillot sur une plage en train de se frencher, puis l'émission d'après, frencher un autre, OK? Excuse-moi, mais si c'est ça le regard de notre société, là, ben j'ai peur pour notre futur. Moi, j'ai peur de voir ça parce que je trouve qu'on dévalorise une femme avec ce genre d'émission-là.
Mais pourquoi le gars en bikini... Ben, en bikini, excuse-moi, mais en petit... Je suis d'accord avec toi, mais ça devrait avoir... Puis c'est là qu'on voit qu'il y a encore un double standard entre l'homme et la femme dans la société.
Ah, l'homme n'a pas sa place non plus à être ça comme ça, là. L'homme, le gars shape.
Le gars en chess, il a bien beau avoir un beau body, mais c'est en son petit maillot, puis il fait des cigarettes, puis il c'est pas capable de donner deux mots, puis il french quatre filles en même temps. Pourquoi lui, on le juge pas autant que la fille? Il est là, moi, c'est là où ça me fait grincer des dents parce que de part et d'autre, les deux devraient être jugés de la même façon. Mais c'est vrai que les femmes sont jugées davantage à ce moment-là. Mais tu vois, moi, je ne laisserais pas des enfants justement regarder ce genre de télé-réalité-là s'il n'y a pas de contrepoids, d'échange harmonieux puis de montrer c'est quoi des vraies émotions puis des vraies relations dans la vie. Là. Mais pour clore l'affaire, là, je dirais, moi, je ne considère pas les gens qui ont participé à des télé-réalités comme étant après ça des vedettes ou des célébrités. Puis encore là, à part ceux qui font des téléréalités à concept artistique. Chronique sport cette semaine, Alex. La saison de football est maintenant terminée. Place aux éliminatoires. Mais on a eu droit à toute une fin de semaine dans la NFL.
Hey boy, Véro, en tant que grand fan fini de football, je peux te dire que j'ai été servi cette fin de semaine. Je vais te faire un petit récapitulatif parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en seulement 2 jours. Je vais te nommer des équipes. Peut-être que pour toi, ça ne dit rien, mais pour les amateurs de football, ils sont comme « je connais cette équipe ». Je vais commencer avec, il y avait 2 matchs samedi le 8 janvier dernier. Les Chiefs de Kansas City ont battu les Broncos de Denver. Grâce à leur victoire, ils pouvaient s'assurer soit de finir premier dans la nationale puisqu'il y a 2 conférences. Tu as nationale et américaine, pour ceux qui l'ignoraient. Donc, les Chiefs pouvaient finir avec cette victoire au maximum 2e. C'est quand même très bon pour une équipe qui avait commencé l'année avec 3 victoires, 4 défaites. Ils finissent l'année avec 12 victoires et 4 défaites. Donc, les Chiefs sont à prendre au sérieux. Les Cowboys affrontaient les Eagles. Jusqu'à là, c'était un match sans importance puisque les Cowboys étaient déjà assurés de leur titre de division. Mais là, c'est dimanche. Le 9, là, le partisan de la NFL a été rassasié et avec des duels, ma foi, petit bruit sonore, extraordinaire. Succulent. Succulent. Il y a eu plusieurs records battus, mais il faut dire que cette année, c'était une première. La NFL avait 18 semaines pour 17 parties. Habituellement, ils ont 17 semaines pour 16 parties. C'est sûr qu'il y a des records qui ont été battus. Est-ce qu'ils comptent? Oui, parce qu'ils ont été faits. Est-ce que les joueurs étaient d'accord? Non, mais regarde. C'est fait. On a eu le droit à une 18e semaine fantastique. Et je vais vous faire un petit récapitulatif. Très rapide. Les Lions de Détroit ont surpris les Packers, mais les Packers étaient déjà assurés de finir premier dans la nationale. Donc, pour eux, ils ont obtenu 1 semaine de congé. Donc, cette semaine, la fin de semaine du 15 et du 16, les Packers ne jouent pas. Grosse déception à Jacksonville. Les pitoyables Jaguars, qui n'avaient que 2 victoires au courant de l'année, ont battu les Colts. Ce qui veut dire que les Colts sont éliminés des séries. Ils devaient gagner. S'ils gagnent, ils participaient aux séries. S'ils perdent, merci, bonsoir, tu t'en vas. C'est une déception à Indianapolis. Suivi d'un match Titan-Texan. Encore une fois, les Texans font de la cale. Les Titans ont tout donné. Et avec leur victoire de 28-25, les Titans ont la semaine de congé dans l'américaine. Donc, si tu me suis bien et vous me suivez bien, les Packers et les Titans ne jouent pas cette semaine. Le match entre les Steelers et les Ravens, qui est un duel mythique, s'est fini en prolongation avec une victoire de Pittsburgh. Mais là, ça l'a mis de l'eau, du vin dans leur coupe, puisqu'avec leur victoire, ils pouvaient...
Ils n'ont pas de l'eau dans le vin.
Ouais, non. Et avec leur victoire, je ne suis pas très bon avec les dictons, avec leur victoire, les Steelers, maintenant, pouvaient participer aux séries, mais ils devaient avoir une nulle dans le match de dimanche soir. Et je vais le garder pour la fin, parce que ce match a été incroyable. Les Rams et les 49ers s'affrontaient lors de la dernière semaine. Les 49ers ont comblé un déficit de 17 points pour vaincre les Rams et se sont qualifiés de justesse dans la nationale, mais les Rams devaient attendre le résultat des Cardinals contre les Seahawks de Seattle pour savoir s'ils allaient être champions de division. Spoiler alerte, les Cardinals ont perdu contre les Seahawks, donc les Rams, malgré une défaite en fin d'année, sont champions de division. Le match Patriots-Dolphins, mais Patriots-Véro, ils ont
perdu.
Ils ont perdu, donc ils finissent deuxième de division. Buffalo finit premier. Qu'est-ce que tu veux quand tu échappes des matchs précieux? Ça arrive, mais c'est la vie. Le match du dimanche soir, si tu avais un match à écouter, c'était le match Raiders de Las Vegas contre Chargers de Los Angeles. Écoute, dans la NFL, il n'y a pas beaucoup de nuls, OK? Après les quatre quarts, il y a une prolongation pour départager les équipes. Une fois les 10 minutes de prolongation terminées, il faut qu'un remporte, sinon c'est un match nul. Et si les deux équipes faisaient match nul, les deux équipes allaient en série. Eh bien, Véro, ça s'est fini 35-32 pour les Raiders, OK? Ce qui veut dire... C'est chaud à la dernière seconde de la prolongation, ce qui veut dire que les Raiders passent, les Steelers passent, et les Chargers, qui avaient connu une année en dents de scie, malheureusement, ne passeront pas. Et je vais vous donner les matchs à regarder pour cette fin de semaine en terminant. Ça commence samedi.
Là, c'est le début des éliminatoires,
C'est le début des éliminatoires. Okay. Ça commence samedi avec un duel Raiders de Las Vegas, Bengals à Cincinnati à 16h30, suivi en soirée du duel Patriots-Bills. C'est leur troisième duel de l'année. Les deux équipes ont remporté chacun un match. Ça sera samedi à 20h15 à Buffalo. Et pour dimanche, petite journée avec trois matchs, bien évidemment, et trois matchs, ma foi, excitants, entre les Buccaneers de Tom Brady contre les Eagles de Philadelphie, les Cowboys contre les 49ers à Dallas à 16h30, et le match que personne n'attendait, mais que finalement, il va avoir lieu, c'est dimanche à 20h15 à Kansas City, les Chiefs vont massacrer les Steelers, parce que oui, les Steelers n'avaient pas d'affaires là. Et là, tu te dis, mais il me semble que tu as nommé deux autres équipes. Oui, la NFL va faire un lundi pour sa première semaine d'activité. Lundi à 20h15 à Los Angeles, les Cardinals et les Rams vont s'affronter. Et la semaine prochaine, je vais vous faire une petite prédiction pour le vrai début des éliminatoires, parce que là, ce sont les Wild Card Games, qui est un premier tour à élimination directe, car dans la NFL, ce n'est qu'une partie, et j'ai hâte en tabarouette à samedi, dimanche et lundi. Véro, moi, je connais le Black Monday, qui est le lundi noir à la fin de la NFL. C'est la journée où est-ce que plein d'entraîneurs se font congédier. Mais toi, tu veux me parler du Blue Monday. C'est quoi ça?
Oui, connaissez-vous ça, ou Blue Monday ou Lundi Bleu? Ben, cette année, ce serait lundi prochain, le 17 janvier. Je dis « serait » parce que depuis quelque temps, on a remis en doute le concept et je vous explique pourquoi. D'abord, petit historique. En 2005, Cliff Arnold, qui est un psychologue britannique, détermine que le troisième lundi du mois de janvier est la journée la plus déprimante de l'année. Là, il appuie son concept sur une équation qui implique six facteurs. La météo, la fin des fêtes de fin d'année, les dettes des fêtes et la réelle capacité de les rembourser parce que là, les factures commencent à entrer, les résolutions du 1er janvier qui tiennent déjà plus, le manque de motivation et le besoin d'agir. Est-ce que c'est de la pseudo-science? Peut-être. Certains diront probablement même qu'il y a beaucoup d'autosuggestions qui finissent par créer ce qu'on souhaite éviter. Aujourd'hui, on sait que cette théorie est plus un mythe qu'une réalité, puisqu'on a appris qu'elle est en fait née d'une campagne de publicité pour une agence de voyage. Question de mousser les ventes de voyages dans le sud en accent sur la morosité de la période annuelle. Et quelques années plus tard, Cliff Arnold a lui-même admis que c'était peut-être pas une super bonne idée d'avoir inventé le concept parce que ça inciterait certaines personnes à broyer du noir. Moi, je pense que ça valait quand même la peine d'aborder le sujet cette semaine. D'ailleurs, je suis certaine que vous allez voir passer des articles ou des publications sur le Blue Monday sur les réseaux sociaux jusqu'à lundi prochain. Et là, l'idée d'en parler, c'est pas pour nourrir cette fausse croyance, mais pour mettre la lumière sur une réelle déprime qui peut s'installer et être bien présente en janvier. Parce que le psychologue il s'était appuyé quand même sur des données associées à la dépression saisonnière. Fin d'une période festive, dette, comme on l'a dit, mais aussi noirceur de l'hiver, froid. Et là, le but, c'est pas de dire aux gens comment se sentir, mais d'aider à faire prendre conscience que la déprime, c'est vraiment une chose courante en cette période de l'année. Les spécialistes disent que, comme le concept du Blue Monday est ancré dans la culture populaire, on devrait en profiter pour faire le point sur notre état, réaliser ce qui nous rend heureux pour établir des actions en vue d'un mieux-être. Et là, moi, je vais partager quelques... parce que moi, j'aime ça partager. Je crois au bonheur des gens, ça me tient à cœur. Alors, voici quelques petites questions à se poser pour se recentrer. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, heureuse? Qu'est-ce que je trouve stressant? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et là, moi, j'ajouterais même... Comment j'ai envie de débuter ma journée? Parce que je suis tombée sur un article que j'ai beaucoup aimé qui proposait d'ailleurs de toujours entamer notre journée parce qu'on aime le plus faire dans la limite de ce qui est possible et accessible, bien entendu, là, parce que si tu tripes à faire du surf, mais que tu habites un 4,5 au 3e étage dans un triplex de Rosemont, ça se peut que tu n'as pas un essayant, une piscine à vagues à portée de main ou à portée de pied, tiens. Mais prenons quand même le temps, ne serait-ce que 15 minutes le matin, de faire quelque chose qui part la journée dans l'épanouissement. C'est qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Que faites-vous pour vous sentir bien? C'est quoi le confort pour vous? La journée aura une meilleure teinte, assurément. Donc, lundi prochain, là, abat le lundi bleu de la déprime. Profitez-en pour instaurer une nouvelle routine de plénitude le matin en vous accordant un moment juste à vous. Et là, Alex, quand je m'entends dire des affaires de même, là, je me dis que je vieillis vraiment.
Ah non, mais pour... Je te comprends, la déprime. J'ai toujours pensé que c'était novembre, moi, le plus déprimant. Je savais pas qu'il y avait une journée. Tu m'as appris ça, au moins. Mais moi, je vais finir l'émission sur la nouvelle un peu insolite. Puis la personne, oui. La personne l'a trouvé sûrement pas très drôle. Peux-tu croire qu'il y a un fugitif, un membre de la mafia sicilienne, qui a été retrouvé après 20 ans? Après 20
de
ans...
De cavale?
Après 20 ans de cavale, ouais, il a été retrouvé. Et est-ce que tu sais comment? Par Google Maps.
Je sens que ça va être weird. Ah, par Google Maps, arrête!
Par Google Maps, oui, c'est le journal italien La Repubblica, je parle vraiment bien italien, qui a partagé que le 17 décembre dernier à Galapagar, qui est une ville située au nord de Madrid, le célèbre, je ne sais pas pourquoi il est célèbre, moi je ne le connais pas, mais Gioacchino Gamino. Il a 61 ans.
J'ai un peu moins cru, là.
Ouais, non, j'ai moins cru, moi aussi.
On va prendre notre italien.
Ouais, a été retrouvé après 20 ans de cavale. Il travaillait dans un restaurant à Galapagar, OK, sous un faux nom, tout simplement. Et c'est une fois que quelqu'un s'est donné, pourquoi on ne le sait pas, un itinéraire, il a reconnu la face du fugitif qui est accusé de meurtre. Il faut dire que maintenant, quand on voit une voiture Google Maps, là, je pense qu'il faut se cacher.
Oui, c'est vrai. C'est quelque chose à te reprocher, là, fuis la voiture avec une grosse boule là, sur le top. Là.
Avec... Non, donc ouais, c'est ben, vraiment... C'est insolite, c'est littéralement. Là. C'est bizarre.
C'est trop grenu.
Mais oui. Surtout qu'il a réussi après... Il a réussi pendant 20 ans à se cacher, puis il se cachait pas. Il a ouvert un restaurant en Espagne.
Ouais.
C'est
ben,
fou, écoute. Pareil. Ben, comme quoi, qu'il n'y a pas de sous-métier?
Non, puis tout nous rattrape visiblement. Eh bien, c'est ce qui complète notre émission déjà cette semaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez vos commentaires, on adore vous lire, ça nous motive. Et partagez notre émission à vos proches. C'est également possible d'écouter tous les épisodes des Accros du micro sur Spotify, SoundCloud, le site de Balado Québec. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Et je vous dis sur ça, bonne semaine, la santé. et portez-vous bien.